Alors, on va, dans cette deuxième partie, essayer de s'intéresser maintenant de manière un tout petit peu plus précise aux mécanismes de création monétaire qui font que une banque centrale va être capable, via le système bancaire qu'elle contrôle, avec plus ou moins de force, d'avoir un effet sur la création monétaire. D'accord ? Alors, juste rapidement revenir sur les mesures de la masse monétaire et vous dire un petit peu quel est le consensus auprès des économistes. Alors, généralement, les économistes parlent d'agrégats monétaires et ils considèrent des agrégats qui sont de plus en plus larges. Alors, le premier agrégat, celui qui est le plus étroit, c'est celui par lequel j'ai défini tout à l'heure la monnaie, c'est-à-dire la monnaie divisionnaire, les pièces, les billets, ces deux aspects formant donc la monnaie fiduciaire, et les dépôts à vue, qui sont en fait les encours que chacun, dont chacun dispose sur son compte à chaque moment. D'accord ? Donc ça, c'est l'agrégat le plus étroit possible, qui s'appelle M1 dans la plupart des pays du monde. D'accord ? Ça, c'est relativement bien normalisé maintenant, aujourd'hui, d'un point de vue comptable. Alors, ce qui gênait un petit peu les économistes, c'est que quand ils regardaient l'évolution de M1, il y avait quelque chose qui n'était pas très stable et qui ne correspondait pas vraiment avec l'idée qu'il se faisait du profil que devait avoir la monnaie. Puisqu'il y avait des variations cycliques qui ne correspondaient absolument pas au comportement qu'on aurait attendu d'une masse monétaire relativement stable et de ses réactions par rapport aux décisions de politique monétaire. Donc, ils se sont dit, mais finalement, peut-être que dans la tête des gens, tout ce qu'ils placent sur des dépôts à terme, avec une durée très courte, finalement, pour eux, c'est aussi de la monnaie, dans le sens où ce n'est pas un placement qu'ils veulent faire, ce n'est pas véritablement une épargne. C'est une épargne transitoire, totalement, voilà, mais qu'ils souhaitent pouvoir mobiliser très souvent. Et donc, les économistes se sont dit, pourquoi pas prendre en compte une partie des dépôts à terme. Donc, les dépôts à terme s'opposent aux dépôts à vue. Les dépôts à vue, vous les voyez, vous pouvez les retirer tout de suite. Les dépôts à terme, il y a un terme qu'il faut attendre avant de pouvoir toucher à son argent. Mais pour certains termes, notamment très courts, les économistes pensent que pour la plupart des gens, c'est quasiment de la monnaie. D'accord ? Ou c'est même de la monnaie. Et puis, au fur et à mesure, les économistes ont considéré potentiellement d'autres titres, d'autres marchés, d'autres actifs financiers comme étant potentiellement de la monnaie. Alors par exemple, l'agrégat large, qui s'appelle M3, prend en compte tous les agrégats de M2, plus les titres d'OPCVM monétaire et des instruments du marché monétaire, c'est-à-dire les SICAV et les fonds communs de placement. Alors, pour les économistes, ça collait assez bien, si vous voulez, l'évolution de M3 collait assez bien avec une certaine stabilité et avec, disons, l'agrégat M3 répondait relativement bien aux décisions de politique monétaire et semblait être l'agrégat pertinent du point de vue des décisions des agents. Donc, ce qui s'est de plus en plus répandu en économie, c'est d'utiliser M2 ou M3, la plupart du temps, comme agrégat monétaire de référence. Les puristes de la monnaie vous diront la monnaie, c'est uniquement la monnaie fiduciaire. Et la plupart des autres économistes se sont mis d'accord sur le fait de dire c'est soit M2, soit M3. À titre d'information, par exemple, la Banque Centrale Européenne considère que l'agrégat monétaire pertinent du point de vue des décisions de politique monétaire qu'elle prend, c'est M3. C'est l'agrégat qu'elle surveille. Dans ses statuts, il est indiqué qu'elle doit surveiller la croissance de M3 et que la croissance de M3 ne doit pas être supérieure à un certain seuil. Donc voilà pour ce qui est de la mesure de la monnaie. Alors, je vais maintenant essayer de vous expliquer rapidement et le plus simplement possible, mais ce n'est pas forcément toujours gagné, les principes de création monétaire. Et ça me permettra aussi d'évoquer un petit peu la situation actuelle. Ça me permettra de vous expliquer pourquoi les autorités monétaires sont un petit peu démunies ces temps-ci. Alors, quand on considère le système bancaire, on considère le système qui est formé par la banque centrale, les banques qu'on appelle banques commerciales de second rang, c'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les banques, seulement certaines banques, je vais vous expliquer lesquelles, et les ménages et les entreprises, d'accord ? C'est-à-dire tous les agents qui détiennent un compte auprès des banques commerciales de second rang. Alors, le premier point, c'est que la structure est la suivante. Les ménages et les entreprises détiennent un compte auprès d'une banque commerciale de second rang, pour la plupart d'entre eux. Il est rare d'avoir un compte à la Banque de France. Et puis c'est vrai, c'est rare. Et puis, chacune des banques commerciales de second rang a un compte auprès de la Banque centrale, en l'occurrence pour la France, hein, c'est la Banque centrale européenne. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les banques commerciales de second rang et pourquoi est-ce que toutes les banques ne sont pas des banques commerciales de second rang? Parce que la Banque centrale édite une liste de banques qui sont autorisées à avoir un compte auprès d'elles. Et seules ces banques-là auront un pouvoir de création monétaire. Parce que, il faut bien comprendre que le pouvoir de création de la monnaie ne dépend pas de l'initiative de la banque centrale, mais dépend de l'initiative de la banque commerciale de second rang. D'accord ? Simplement, la banque centrale exerce un contrôle qui peut être très grand ou très faible sur ce mécanisme de création monétaire. D'accord ? Donc je vais essayer de détailler un petit peu plus. Oui ?
L'État n'apparaît pas comme agent.
Non, l'État ne... Alors, la Banque de France... Faisons juste un petit peu d'histoire. La Banque de France, pendant longtemps, était, jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, était directement dépendante du Trésor. D'accord ? C'est-à-dire que le ministère des Finances contrôlait la Banque centrale et intervenait régulièrement sur la politique monétaire. De nombreux travaux ont montré qu'il y avait une tentation très forte pour les hommes politiques qui consistait à utiliser la monnaie de manière expansionniste juste avant les élections pour maximiser sa probabilité de réélection et de mener des politiques plutôt restrictives à la suite des élections. D'accord ? Et cette cyclicité-là, le fait que la politique monétaire dépendait beaucoup du cycle électoral, était quelque chose qui finalement était assez préjudiciable puisque ça ne correspondait pas nécessairement avec le cycle économique. En tout cas, ce n'était pas forcément des décisions qui étaient... Enfin voilà, cette manipulation-là n'était peut-être pas forcément souhaitable. Donc, les économistes ont montré que si les banques centrales étaient indépendantes des États, qu'on leur confiait un mandat clair avec des objectifs clairs, celles-ci seraient plus à même de les mener si elles sont indépendantes des États que si elles sont dépendantes des États. Selon l'idée que les ménages ne sont pas complètement stupides et que, si vous voulez, vous pouvez essayer de les tromper une fois, vous y arriverez. Mais qu'ils apprennent et que la fois suivante, lorsque vous essaierez de les tromper, il ne se passera rien, mais vous ferez de l'inflation. D'accord ? Et cette inflation viendra gréver le pouvoir d'achat des ménages et viendra réduire le pouvoir d'achat en général de la monnaie, vous pénalisera peut-être sur le point de vue commercial extérieur et finira par créer beaucoup plus de préjudices que de bénéfices. Que donc la manipulation systématique par l'État de la politique monétaire, ce n'était pas souhaitable. Donc l'État n'apparaît pas. La Banque centrale européenne, d'un point de vue constitutionnel, son pouvoir lui est investi directement par les États-nations et elle a un mandat clair qui figure dans le traité de Maastricht qui dit qu'elle doit lutter contre l'inflation des prix à la consommation et que ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, rester inférieurs à
2%. Je pensais simplement au même rang qu'un individu ou une entreprise qui a un stock de dette et un stock de pertes.
Non, parce que c'est pas particulièrement. Enfin, vous pouvez le mettre, si vous avez envie, là, vous pouvez le mettre directement au niveau des ménages et des entreprises. D'accord ? Voilà. Alors, Comme je vous disais tout à l'heure, comment est-ce que ça fonctionne, un système bancaire qui crée de la monnaie aujourd'hui dans les économies développées? Alors, il faut d'abord savoir que la banque centrale ne crée pas directement de monnaie. En fait, elle contrôle les conditions de création de la monnaie par les banques commerciales de second rang. Donc, ce sont les banques commerciales de second rang, celles qui ont un compte auprès de la banque centrale, qui ont le droit de faire des prêts, des crédits, et que ces crédits, d'accord, sont créés sans préalable nécessaire. D'accord ? On dit que la monnaie créée, d'accord, vous allez voir votre banque, elle augmente votre encours, mettons vous avez besoin de 150 000 euros pour acheter un chalet, n'importe une maison, ce que vous voulez. Elle, vous allez les voir, vous signez le contrat, elle inscrit sur votre compte sans autre prérequis, d'accord, 150 000 euros, et vous utilisez ces 150 000 euros comme vous le désirez, en l'occurrence pour acheter votre bien immobilier, et vous recommencez à rembourser votre crédit. D'accord ? C'est cette créance-là, ou cette dette-là, si vous voulez, qui instaure la création monétaire, qui est à l'origine de la création monétaire. Les économistes disent la monnaie est créée ex nihilo, à partir de rien. Ok ? Donc ça, c'est le premier temps de la création monétaire. Donc mécaniquement, les banques, en octroyant des crédits, augmentent la masse monétaire en circulation. D'accord ? Alors, chacune des banques commerciales de second rang, comme je vous ai dit tout à l'heure, a un compte auprès de la banque centrale. Cette banque, ce compte, d'accord, est alimenté par les banques commerciales de second rang sous forme de créances qui sont revendues, hein, qui sont vendues, si vous voulez, de titres, qui sont vendus directement ou mis en pension simplement auprès de la banque centrale. Et en échange donc de ces titres qui sont vendus par les banques commerciales à la banque centrale crédite votre compte. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent qui est sur ce compte? Les banques commerciales de second rang effectuent à la fin de chaque journée une compensation des transactions. D'accord ? La BNP paye, d'accord, fait des virements auprès de la Société Générale auprès de la Banque Populaire auprès de la BNP. Tout le monde fait des transactions avec tout le monde entre ces banques. À la fin de la journée, d'accord, on ne passe pas une opération par banque, on ne passe pas une opération comptable par transaction. D'accord ? On consolide toutes les transactions de la journée et on regarde qui doit quoi à qui. Et donc, les banques qui, certaines journées, doivent payer quelque chose en net, par exemple, à la Société Générale, doivent avoir de l'argent sur leur compte auprès de la Banque Centrale pour réaliser ces opérations de compensation. D'accord ? Donc, ces opérations-là, on les appelle les opérations de chambre de compensation. Ce sont les opérations normales, standards, régulières, qui sont faites tous les jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous êtes une banque, vos clients ont toute latitude pour retirer de l'argent, c'est-à-dire transformer de la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. D'accord ? Et à chaque fois que vous faites ça, vous obligez la banque commerciale de second rang à vous fournir des billets. Et comme vous avez remarqué, vous n'êtes pas obligé d'aller retirer dans votre propre banque, dans la plupart des cas, même si les banques aimeraient bien que vous alliez toujours chez eux. Hein, si votre banque, la Société Générale, aimerait que vous retiriez toujours auprès de la Société Générale, ce n'est pas le cas. Vous avez le droit de retirer n'importe où. Une banque est dans l'obligation de fournir des billets aux clients qui le souhaitent. D'accord ? Sauf que la banque commerciale de second rang, elle, n'a pas la capacité d'émettre des billets. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit utiliser une partie de l'argent qu'elle a sur son compte auprès de la banque centrale pour acheter des billets. Et une fois qu'elle les a achetés, elle va les mettre dans les distributeurs pour que vous puissiez les retirer quand vous en avez besoin. Et ça, quand on prend le système bancaire dans son ensemble, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va à chaque fois qu'il y a une unité de monnaie supplémentaire créée, il y a un petit pourcentage. D'accord ? En France, je vous ai dit, c'est 14 ou 15%, ça dépend un petit peu des mesures. Il y a 14 ou 15% de cette unité de monnaie qui va finir par circuler sous forme de billets. D'accord ? Donc, la banque commerciale de Sogoron, théoriquement, elle peut accorder autant de crédit qu'elle veut et elle a un pouvoir de création monétaire illimité. Sauf que, elle doit toujours avoir de la liquidité, c'est-à-dire un solde positif, sur son compte auprès de la banque centrale. Parce que tous les jours, elle règle des opérations de chambre de compensation, et tous les jours, elle doit aussi acheter des billets pour approvisionner ses distributeurs. Autrement dit, puisqu'elle n'a pas une capacité infinie à revendre des titres pour acquérir de la liquidité auprès de la banque centrale, elle est contrainte dans son pouvoir de création monétaire. Et c'est via ce qu'on appelle ces fuites de monnaie, hein, que la banque centrale contrôle la création monétaire par les banques commerciales de ce moment. C'est-à-dire que elle contrôle le prix de la liquidité. Elle dit généralement, hein, aux banques commerciales, d'accord, je suis prêt à te donner, à créditer ton compte, mais il faut que tu, en échange, me payes un taux d'intérêt qui est plus ou moins élevé. D'accord ? Et selon ce taux d'intérêt, la banque va pouvoir ou ne pas pouvoir mettre en pension ses titres ou vendre ses titres. Et donc, elle pourra ou ne pourra pas, compte tenu de ça, acquérir de la liquidité. Et en fonction de sa liquidité, ne pourra ou ne pourra pas accorder des prêts. Autrement dit, via ces fuites de monnaie, hein, la banque centrale, en tant qu'émetteur monopolistique unique de billets, d'accord, a un pouvoir de contrôle sur la création monétaire des banques commerciales. Elle a un autre pouvoir. Elle a le pouvoir de dire aux banques commerciales de second rang, vous êtes obligé d'avoir sur votre compte auprès de la banque centrale toujours un certain pourcentage des dépôts à vue. Vous avez 100 milliards de dépôts à vue, moi je veux 10%, c'est-à-dire 10 milliards, sur mon compte. Ça veut dire qu'elle doit avoir toujours au moins 10 milliards sur le compte auprès de la banque centrale. Et ça, c'est une autre fuite. D'accord ? C'est une autre fuite qui fait que la banque centrale contrôle potentiellement le pouvoir de création monétaire des banques. Alors, ces trois sources que sont les réserves obligatoires, le règlement dans les chambres de compensation et la fourniture de billets font que les banques n'ont pas du tout une capacité illimitée à créer de la monnaie. Puisque, d'une certaine façon, c'est comme un puissant fond. C'est-à-dire que dès qu'elles vont créer de la monnaie, il va y avoir des fuites et elles vont devoir vendre des titres. Autrement dit, elles ne peuvent pas se découvrir de manière infinie et vendre des titres à l'infini, tout simplement parce que sinon, leurs bilans finissent par être tellement déséquilibrés qu'elles vont finir par faire faillite. Donc elles ont besoin d'équilibrer ça et elles ont besoin également d'alimenter régulièrement leurs comptes auprès de la banque centrale. D'accord ? Donc elles doivent toujours faire attention à leur politique de crédit, elles doivent en accorder suffisamment compte tenu des capacités qu'elles ont à obtenir de la liquidité auprès de la banque centrale. Alors ça nous permet un petit peu, peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous saviez tout ça, en tout cas ça nous permet un petit peu de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que la banque centrale, elle est assez forte pour empêcher les banques commerciales de créer trop de monnaie. C'est assez facile pour elle de dire « Stop, vous créez trop de monnaie, ça suffit, j'augmente le coefficient de réserve obligatoire. Non, stop, ça suffit, j'augmente les taux d'intérêt auxquels vous pouvez vous refinancer. » D'accord ? Et ça va faire quoi ? Si on augmente le prix du refinancement de la banque commerciale auprès de la banque centrale, la banque, qui ne travaille jamais gratuitement, va répercuter, moyennant, avec une petite marge, hein, toujours, il ne faut pas s'inquiéter pour eux, va toujours répercuter l'augmentation du prix de la liquidité qu'elle doit acquérir auprès de la banque centrale sur ses taux de crédit. D'accord ? Et donc, ça, ça va faire quoi ? Ça va faire augmenter les taux d'intérêt. Si vous augmentez les taux d'intérêt, les entreprises et les ménages vont pouvoir s'endetter moins facilement. Donc, d'une certaine façon, on arrive très bien à calmer la création de monnaie, en calmant le crédit. Mais le problème, c'est que, à l'inverse, pour le stimuler, c'est relativement compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, les banques commerciales ont un accès théoriquement illimité à la liquidité. À un taux de refinancement, la Banque centrale nous dit, aujourd'hui, c'est 0,5. Pour les opérations à plus court terme, entre 0,5 et 1, d'accord ? Donc c'est des taux historiquement bas. Et ce qui se passe, les banques ont des liquidités incroyables sur leurs comptes auprès de la Banque centrale, et en dépit de ça, ne prêtent pas aux ménages, ne baissent pas leurs taux de manière très très agressive, même si les taux d'intérêt sont quand même relativement bas, mais en tout cas, ne se prêtent plus beaucoup entre elles, et ne relayent pas, si vous voulez, la volonté expansionniste de la Banque centrale sous forme d'une baisse des taux d'intérêt très importante ou d'une politique de crédit beaucoup plus généreuse. Donc c'est là qu'on voit que autant les déterminants de la création monétaire à la hausse, ils sont bien contrôlés par la Banque centrale, à la baisse, hein, d'accord ? Donc ça veut dire que la Banque centrale peut facilement contrôler une création excessive de monnaie. Mais par contre, quand elle veut stimuler, il arrive qu'elle soit tout simplement dans l'impossibilité de le faire. D'accord ? En dépit de, je veux dire, là aujourd'hui, elle utilise pratiquement tous les instruments qu'elle peut, mais il n'y a pas de répercussions sur le marché du crédit. D'accord ? Toute la liquidité qu'elle met en circulation, elle ne se transforme pas en monnaie parce que les banques ne relayent pas ces décisions-là sous forme de politique plus généreuse de crédit. Parce que les banques ont peur qu'il y ait trop d'impayés à cause de la conjoncture qui est mauvaise, la probabilité que les gens perdent leur emploi lorsque, etc. Enfin, ils ont sûrement tout un tas de bonnes raisons. En tout cas, voilà ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle on peut réintroduire l'État dans la boucle. Dans ce genre de situation, puisque les ménages ne peuvent pas investir ou s'endetter pour acheter leur appartement, etc., un bon moyen de soutenir l'activité économique, puisqu'on ne peut pas faire du crédit privé, ça va être de faire du crédit public. Et donc de s'endetter directement en tant qu'État et de faire de l'investissement public pour se substituer à l'investissement privé. Voilà un petit peu la situation actuelle, ce qui a amené, si vous voulez, les États à se dire qu'il fallait absolument qu'ils relancent l'économie. C'est que fin 2008, ils voyaient que les politiques monétaires étaient extrêmement laxistes, extrêmement généreuses. Il ne se passait rien, toute la liquidité était bloquée sur le marché, ce qu'on appelle interbancaire, qui est le marché qui organise les comptes des banques commerciales de second rang auprès de la Banque centrale. Tout ça, c'était bloqué là, et ça ne se transformait pas en crédit dans l'économie réelle. Et donc, tout simplement, l'État est intervenu pour dire, puisque les ménages et les entreprises ne peuvent pas investir et relancer l'économie grâce à la politique monétaire accommodante, c'est l'État qui va faire une politique budgétaire, lui, expansionniste, qui va investir à la place des ménages et des États, puisque l'État, théoriquement, a une probabilité de défaut beaucoup plus faible que la plupart des ménages ou des entreprises qui s'endettent. Alors, la situation d'une politique monétaire où vous injectez beaucoup d'argent sur le marché interbancaire et où il ne se passe rien sur le marché du crédit, c'est ce qu'on appelle une trappe à liquidité. C'est exactement la définition d'une trappe à liquidité. Vous pouvez en mettre tout ce que vous voulez, les gens finiront pas par s'endetter plus, il n'y aura pas plus de crédit, il n'y aura pas plus de politique monétaire expansionniste, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc ça peut effectivement avoir d'autres répercussions, d'accord ? Cette liquidité, alors c'est un petit peu compliqué. Juste très rapidement, la Banque Centrale Européenne met en circulation beaucoup de liquidités, mais on dit qu'elle stérilise aussi ses interventions. Stériliser, ça veut dire faire une variation du bilan équivalente. D'accord ? C'est-à-dire faire bouger les contreparties de manière équivalente, de sorte que vous soyez capable très rapidement, si jamais cette liquidité commence à produire des effets, de la retirer. histoire de garder une espèce de contrôle dessus. Ça devient un petit peu technique. Mais effectivement, c'est... Donc si on stérilise, il n'y a pas ce risque que vous évoquez de bulle sur d'autres actifs financiers. Mais de toute façon, une politique monétaire trop accommodante, si vous voulez, si elle ne se retrouve pas sous forme de... Je vais revenir à cette idée de tout à l'heure des bouteilles d'eau. Tout à l'heure, on parlait donc juste de bouteilles d'eau. Donc ça, plus de crédit, hein, plus de monnaie en circulation peut amener à une augmentation du niveau général des prix. Mais elle peut aussi amener à une augmentation, par exemple, des biens immobiliers. D'accord ? Elle peut amener à ce que, par exemple, des gens s'endettent, si les taux d'intérêt sont trop bas, hein, peuvent s'endetter pour placer dans des actifs qui rapportent mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du levier. Hein, je m'endette à un taux très bas et je place à un meilleur taux. Et l'écart, je l'empoche. D'accord ? Et ce type de comportement-là, au lieu de faire augmenter le prix des biens, d'accord ? Ça peut tromper la banque centrale, en fait, et faire augmenter le prix d'autres actifs. D'accord ? Et c'est un petit peu ce qu'on a vu aux États-Unis entre 2000 et 2007, d'accord ? En Europe, un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'on avait des politiques monétaires qui étaient très accommodantes. On avait des politiques... Et on avait une augmentation des prix qui était très limitée. Donc les banquiers centraux se disaient... C'est merveilleux, je peux avoir une politique accommodante, je n'ai pas d'augmentation du niveau général des prix que demande le peuple. Je veux dire, Greenspan, c'était le dieu sur Terre. Tous les analystes disaient, c'est extraordinaire. Alors les économistes ont un petit peu tiré la sonnette d'alarme, du moins certains, en disant, attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'augmentation du niveau général des prix qu'il n'y a pas d'augmentation des prix. Toute la liquidité que vous êtes en train de mettre sur le marché, ça fait une bulle immobilière aux États-Unis. Ça fait une bulle immobilière en Espagne. Ça fait une bulle de dette publique en Grèce. D'accord ? Donc attention, là, vous êtes en train de vous fourvoyer. Vous pensez que seulement en regardant les prix des biens, vous faites de la bonne politique monétaire. Il faut peut-être regarder aussi les prix d'actifs. D'accord ? Donc, effectivement, vous avez raison de dire que, d'une certaine façon, si on accorde beaucoup de liquidités et qu'effectivement, ça se transmet sous forme de crédit, avec des taux très bas, par exemple, ça peut vraiment faire des bulles, mais pas forcément... Ça peut faire pas forcément de l'inflation pour les biens de consommation, mais pour les biens immobiliers ou d'autres types d'actifs. D'accord ? Vous avez raison de le souligner. Un petit peu de temps pour parler un peu de théorie. Parce que pour l'instant, on n'a pratiquement pas parlé de théorie économique. D'accord ? Pour l'instant, j'ai simplement... On a un petit peu parlé en creux, mais très rapidement. On n'a pas parlé de comment les économistes considèrent la monnaie, est-ce qu'ils pensent que c'est important, pas important. En fait, les mécanismes que j'ai décrits là, ils vont s'appliquer pour toutes les théories, hein, d'une certaine façon, puisque ce sont des mécanismes de création monétaire observés, réels, hein, qui sont effectifs au quotidien. Après, la question de savoir pourquoi les agents demandent de la monnaie, quels sont les déterminants de cette demande de monnaie, et que va faire cette monnaie ? Est-ce qu'elle va être neutre ou est-ce qu'elle va avoir un effet sur l'économie réelle ? D'accord ? Ça, ce sont les questions auxquelles la théorie va répondre. Donc, pour l'instant, on a juste parlé des fonctions de la monnaie, de la nature de la monnaie et des grands principes de création monétaire. D'accord ? Donc on n'a quasiment pas parlé de théorie jusqu'à maintenant. Alors, vous avez un petit historique assez rapide. On va dire que de la théorie, il y a une filiation très importante qui existe entre la théorie classique, la théorie monétariste et la théorie des nouveaux classiques. D'accord ? Nouveaux classiques qui ont encore été récompensés par un certain prix cet après-midi. Alors, ça a à voir, et les théories de la monnaie sont fondées là-dessus, hein, pour savoir si elle est neutre ou si elle n'est pas neutre. Ils sont essentiellement fondés là-dessus, ça a à voir avec les raisons pour lesquelles on va demander de la monnaie. Pour les classiques, la seule chose qui importe, d'accord, c'est d'avoir suffisamment de monnaie pour payer quotidiennement ses achats. À la rigueur, on peut aussi envisager que on ait un motif de précaution, donc qu'on fasse une épargne. Et selon les néoclassiques, les deux sont déterminés par ce qu'on appelle le taux d'intérêt. En fait, vous allez vous retrouver à chaque période avec un certain revenu. Et vous avez une certaine impatience. Vous comparez cette impatience avec le taux d'intérêt qui rémunère le temps. D'accord ? Si vous êtes plus impatient que le taux d'intérêt, vous allez avoir tendance à consommer beaucoup aujourd'hui. D'accord ? Donc à vous endetter et à rembourser demain. Si au contraire vous êtes quelqu'un de patient, vous allez avoir tendance, d'accord, si le degré de patience est supérieur au taux d'intérêt, à attendre, à épargner aujourd'hui et à consommer demain. D'accord ? Donc ça, c'est la théorie classique, et c'est la même théorie pour la consommation et pour l'épargne. Puisqu'en fait, pour les classiques, tout ce qui n'est pas épargné est consommé, ou tout ce qui n'est pas consommé est épargné. Ça revient au même. D'accord ? Et ça vous dit simplement que, en fait, l'épargne, c'est de la consommation différée. Et que selon votre degré de patience, vous allez être plus ou moins enclin à transférer de la richesse dans le temps et donc à demander plus ou moins de monnaie pour le motif de consommation. Et le reste, vous allez le placer sur un compte. Donc quand vous avez votre revenu, d'accord, pour les classiques, vous en consommez une partie, c'est la partie qui n'est pas épargnée, et tout le reste, c'est placé sous forme d'épargne. Autrement dit, vous vous souvenez, hein, si c'est de l'épargne, ce n'est pas de la monnaie, théoriquement, dans la théorie. Hein. Si c'est de l'épargne, ce n'est pas de la monnaie, donc tout ce qui est non épargné est consommé, donc la monnaie, c'est ce qui est consommé. D'accord ? Donc le seul motif vraiment valable pour les classiques de détenir de la monnaie, c'est le motif de transaction, de consommation ou d'investissement. D'accord ? Et les classiques disent, puisque tout ce qui est consommé est reporté sur le marché des biens et services, d'accord, vous allez demander des biens et services consommés chaque mois, d'accord, vous allez faire vos courses, vous allez acheter, etc., vous allez au cinéma. Donc vous demandez des biens et services. Et de l'autre côté, tout ce qui n'est pas consommé est épargné. Et ce qui est épargné, par l'intermédiaire des marchés financiers, c'est réintroduit dans le circuit économique sous forme d'investissement. D'accord ? Donc tout ce qui est épargné va être investi. Donc finalement, tout ce qui est distribué comme revenu à une période est automatiquement égal à tout ce qui va être demandé sous forme de biens et services, consommation et investissement. Donc automatiquement, la quantité de monnaie que vous allez avoir en circulation va n'avoir aucun effet. D'accord ? Puisque tout ce qui va être distribué d'un côté va être exactement retrouvé de l'autre. D'accord ? Et la monnaie, finalement, ne va avoir aucun rôle déterminant d'accord ? dans la quantité de biens et services qui va être produite. Alors ça, c'est résumé, cette idée, dans l'équation de Fisher. On ne va pas avoir trop le temps de développer là-dessus. Simplement, l'idée, c'est que la monnaie est neutre, c'est un voile, d'accord, puisque tout ce qui est gagné est réintroduit dans le circuit économique par de la consommation ou de l'investissement, d'accord. Et donc, ça n'a pas d'effet, si vous voulez, la monnaie ne va pas avoir d'effet sur les quantités produites, elle va simplement avoir des effets sur le prix, le niveau général des prix. D'accord ? Comme tout à l'heure, on a fait cette expérience des bouteilles d'eau. Si j'introduis plus de monnaie, ce n'est pas pour autant que je vais produire plus de bouteilles d'eau. Hein ? C'est simplement que je vois que vous avez tous plus de monnaie, donc j'augmente le prix de manière proportionnelle à la quantité de monnaie que vous avez. D'accord ? Ça, c'est les classiques. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fonctionne bien à long terme. Maintenant, à court terme. À court terme, les Keynésiens pensent deux choses. Une chose qui n'est pas sur le transparent et une autre qui est sur le transparent. Les deux choses sont au moins aussi importantes l'une que l'autre. Premièrement, pour les Keynésiens, vous avez un motif additionnel de détention de monnaie. Et quel est-il ? C'est la spéculation. Alors, intuitivement, il faut savoir que ces théories keynésiennes sont fortement inspirées de la vie privée de Keynes, qui était follement amoureux d'une danseuse, qui avait un train de vie extrêmement dispendieux, et que Keynes s'évertuait à faire fructifier son maigre salaire de professeur sur les marchés financiers. Il est devenu un excellent spéculateur, il a gagné beaucoup d'argent, il est devenu très riche en faisant fructifier son capital de cette façon-là. Et donc, d'une certaine façon, c'est cette nécessité d'assurer un certain train de vie qui l'a amené à comprendre aussi bien les marchés financiers et donc à proposer cette théorie qui est vraiment assez révolutionnaire et impressionnante, qui est la suivante. Les classiques pensent que toute monnaie qui n'est pas placée, en fait, vous fait perdre de l'argent. D'accord ? Elle vous fait perdre de l'argent, pourquoi ? Parce que si vous la placez, vous avez un taux d'intérêt. Tandis que si vous ne la placez pas, vous n'avez rien du tout, et même vous pouvez y perdre s'il y a de l'inflation. D'accord ? Mettons qu'il y ait 2% d'inflation, vous gardez 10 euros dans votre poche pendant un an, il y a 2% d'inflation, l'année qui suit, vous avez 10%, vous avez 2% en moins. D'accord ? Donc vous avez 9,8 euros. Bon, vous avez perdu de l'argent. Donc les classiques disent mais personne n'aura envie de perdre de l'argent comme ça, alors qu'on peut, en les plaçant, gagner de l'argent. Et Keynes lui dit c'est totalement faux, pour la raison suivante. Quand vous décidez de placer de l'argent ou pas, vous avez certes le taux d'intérêt, mais vous avez aussi la variation du prix de l'actif sur lequel vous placez votre argent. Et si vous achetez aujourd'hui un actif avec un rendement très bas et que vous essayez de le revendre demain avec des rendements qui auront augmenté, le prix de l'actif qui était payé 2% à la période précédente, mais le même actif sera payé 3% à la période suivante, celui qui était payé à 2%, son prix va baisser de manière très importante. Autrement dit, vous allez faire une perte en capital. Alors certes, vous aurez gagné vos 2%, mais la perte en capital que vous aurez faite, elle sera beaucoup plus importante. Et donc finalement, comparé à l'option « je garde sous forme liquide ces encaisses », finalement, ne perdre que 2%, c'est peut-être pas plus mal par rapport à perdre 15 ou 20%. Et Keynes dit, il n'y a aucune raison pour que les gens qui placent leur argent ne soient pas au courant de ça. Ils ne sont pas fous, ils savent très bien que les prix d'actifs, ça bouge, et que si aujourd'hui les taux d'intérêt sont trop bas, ils n'ont aucun intérêt à acheter, puisque les actifs qui seront émis demain seront très certainement, au moment où ils voudront les revendre, seront très certainement mieux rémunérés, et donc les actifs qui va souscrire aujourd'hui vont connaître des pertes en capital. Le raisonnement est symétrique pour les périodes où les taux d'intérêt sont très élevés. Si les taux d'intérêt sont très élevés, peu probable que les actifs qui soient émis demain soient émis à un rendement supérieur. Autrement dit, il est pratiquement certain que si vous placez avec des taux d'intérêt élevés, que les taux d'intérêt demain seront plus bas, et donc que les actifs que vous avez souscrits aujourd'hui, vous puissiez les revendre plus cher. Autrement dit, vous allez faire des gains en capital. Donc, quand les taux d'intérêt sont élevés, vous êtes doublement incité à placer votre argent. Non seulement vous réalisez des gains en intérêt, mais en plus, vous réalisez des gains en capital, d'accord, si les taux d'intérêt ont baissé par rapport à hier. Donc, avec ça, Keynes explique que, finalement, si les taux d'intérêt sont très bas, vous allez être incité à garder une grande partie de votre monnaie sous forme liquide. Lui, il prend l'exemple de l'argent qu'on met sous le matelas. Il dit, voilà, c'est la meilleure cachette, c'est pratiquement sûr, etc. Bon, il y a l'inflation, mais il dit, il y a beaucoup de gens qui font ça et qui n'ont pas confiance dans les banques ou qui, tout simplement, font ce calcul de spéculation, de spéculateur, en disant, j'ai pas intérêt à placer mon argent maintenant. Et ça, ça a une importance capitale. Pourquoi ? Puisque en faisant ça, vous retirez des encaisses monétaires de la circulation. D'accord ? Ça veut dire que vous avez une partie qui est consommée, vous avez une partie qui est épargnée, et vous avez une partie qui est sous le matelas. Et celle qui est sous le matelas, c'est celle qui fait que la consommation et l'investissement sont tous les deux inférieurs à leur niveau d'équilibre. Autrement dit, à leur niveau de plein emploi, celui des néoclassiques. Forcément, les néoclassiques, pour eux, tout est soit consommé, soit investi. Mais pour Keynes, il dit, non, attendez, il y en a un qui dort sous le matelas. Et effectivement, force est de constater qu'il y a cette fuite supplémentaire. D'accord ? Aujourd'hui, là, chacun, vous avez de l'argent liquide sur vous qui ne vous sert pas forcément aujourd'hui, immédiatement. Vous le gardez sous forme liquide. Pourquoi ? D'accord ? Parce que vous savez que vous en aurez besoin demain, mais si vous saviez ça, vous pourriez très bien simplement avoir une carte bancaire et garder ça sur un compte qui vous rapporte en attendant. D'accord ? Donc, Keynes dit, non, il y a une partie qui reste détenue sous forme liquide. Et ça, ça change tout, donc, puisque l'équilibre économique qui va en résulter fait que vous allez être à un niveau de production, ou de, si vous voulez, de valeur ajoutée, produite, qui va être inférieure parce que la demande est trop faible. D'accord ? Et donc, par définition, la monnaie n'est pas neutre, puisque s'il n'y avait pas de monnaie, on pourrait atteindre un meilleur équilibre. D'accord ? Mais à cause de ce motif-là, d'accord, on est dans un équilibre qui est sous-efficace. Et donc, il faut que le gouvernement intervienne ou que la Banque centrale fasse une politique monétaire de stimulation pour remédier à ça. D'accord ? Donc, pour Keynes, à court terme, il y a la possibilité d'équilibre de sous-emploi des capacités de production. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a toute une autre partie des travaux de Keynes qui consiste à dire, quand vous avez observé tous que vous aviez 5 euros supplémentaires, vous avez tous cru que vous étiez plus riche. D'accord ? Les néoclassiques vont vous traiter de débiles mentaux en disant, vous n'êtes pas capable de voir que c'est une augmentation du niveau général des prix. D'accord ? Vous êtes sujet, selon les classiques, à l'illusion monétaire. Vous croyez que vous êtes plus riche, alors qu'en fait, votre pouvoir d'achat n'a pas changé. Keynes, lui, va dire, vous n'êtes pas des débiles mentaux. C'est déjà vachement plus sympa. Vous êtes simplement dans un moment temporaire de confusion qui fait que vous observez tout de suite que vous êtes plus riche, mais par contre, vous mettez un certain temps à traiter l'information en regardant les prix, et vous ne réalisez pas tout de suite, d'accord, que cette augmentation de la richesse, en fait, est annulée par l'augmentation des prix. Et entre-temps, d'accord, donc que ce soit vous ou les entreprises, et entre-temps, d'accord, l'entreprise qui voit des gens affluer à sa porte parce qu'ils ont reçu des encaisses monétaires, elle ne se dit pas tout de suite, mais mince, tout le monde a reçu plus d'argent, il faut que j'augmente mes prix. Elle se dit, génial, je vais pouvoir augmenter ma production. D'accord, et le boulanger va lancer des baguettes. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il va se rendre compte, d'accord, que ce n'est que temporaire et que lui, quand il va faire ses courses, le boulanger, il se rend compte que tout a augmenté. Il croyait que c'était simplement la demande de son bien qui augmentait, alors que c'était toute la demande qui augmentait. Donc il se dit finalement, ben, tous les prix augmentent, donc mon prix aussi doit augmenter. Et il augmente ses prix. Ce temps au cours duquel vous avez l'impression d'être plus riche, et où en fait, simplement une erreur de lecture, parce que vous n'arrivez pas à voir que les prix ont déjà augmenté, et les prix n'augmentent pas systématiquement parce que les entreprises, pareil, croient que seulement, en fait, que c'est la demande qui augmente, alors qu'en réalité, tous les prix augmentent. D'accord ? Le temps que tout le monde réalise que les prix augmentent, qui prend souvent un certain temps, pour Keynes, au moins quelques mois, voire quelques années, d'accord ? Tout ce temps-là, c'est de l'efficacité de la politique monétaire. C'est de la non-neutralité de la monnaie. Tout le temps que vous vous trompez, c'est bien parce que, bah pour Keynes, hein, parce que ça rend efficace la politique monétaire. Et c'est important d'avoir une politique monétaire efficace parce que vous avez des équilibres de sous-emploi qui doivent être corrigés. D'accord ? Donc pour Keynes, fondamentalement, les agents ont une lecture un peu retardée de l'évolution de leur richesse. Ils pensent être plus riches puisqu'ils raisonnent essentiellement sur les variables nominales. Le temps qu'ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas plus riches mais que le niveau des prix a augmenté, ils se retrouvent finalement dans la situation où ils se disent bah, « Je vais réviser mon comportement, je croyais que j'étais plus riche, en fait non, je ne suis pas plus riche, donc je vais baisser ma demande à son niveau initial. » Et de la même manière, les entreprises se disent « J'ai plus de demandes, j'ai l'impression que c'est parce qu'on veut plus de mon bien. » Mais non, en fait, tous les prix augmentent. D'accord ? Donc lui finit par augmenter son prix. Ce délai-là, comme je vous ai dit, fait que la monnaie n'est pas neutre à court terme. Et ça, c'est tout le projet keynésien. D'accord ? Alors, fondamentalement, en fait, d'une certaine façon, la différence qui existe entre les classiques et les keynésiens, elle tient surtout dans l'hypothèse qu'on fait sur la rationalité, plus ou moins la rationalité des agents et leur capacité à traiter immédiatement et sans coût beaucoup d'informations. D'accord ? Je ne veux pas revenir sur toutes les théories, mais simplement sur cette différence-là. Pour les classiques, pour les monétaristes, ou même pour les théoriciens des anticipations rationnelles, l'individu est doté de pouvoirs de traitement de l'information extrêmement sophistiqués. Il est capable de faire la différence entre une augmentation du prix du bien qu'il produit et une augmentation du niveau général des prix. Il est capable de faire la différence entre une augmentation de son salaire nominal et une augmentation de son salaire réel. C'est-à-dire, ce qu'il touche à la fin du mois, si ça augmente, mais que le niveau général des prix a augmenté, son salaire nominal a augmenté, mais son salaire réel n'a pas bougé. Les monétaristes, les théoriciens des anticipations rationnelles pensent que les agents voient ça tout de suite. Les keynésiens, eux, ils pensent qu'il existe des viscosités, soit parce qu'elles sont institutionnelles, soit parce qu'elles sont liées à la capacité limitée que nous avons tous à traiter l'information, qui font que, au moins pendant un certain temps, voilà, on n'est pas complètement rationnel, ou en tout cas, on travaille sur des signaux, sur des interprétations qui ne sont pas les bons pendant quelques temps, et on se trompe avant de s'ajuster dans les périodes qui suivent, puisque finalement, on se rend bien compte que, d'accord, si on gagne plus à la fin du mois sur la fiche de paye, mais que finalement les prix augmentent plus vite, on va finir par se rendre compte que le frigo va être de plus en plus vide, ou on va avoir de plus en plus de mal à la fin du mois. Donc on finit bien par se rendre compte. Mais ça prend un certain temps, le temps de traitement de l'information, d'assimilation. Et entre-temps, ça fait une différence essentielle, c'est que ça rend la politique monétaire, entre autres, mais aussi la politique budgétaire, plus efficace. Et donc ça donne des marges de manœuvre en termes de politique économique, alors que, globalement, pour les monétaristes, les classiques et les théoriciens des anticipations rationnelles, il n'y a aucune marge de manœuvre pour la politique économique. Le but, hein, ça va être de justement limiter au maximum les éléments de brouillage des signaux de prix et d'information. Et donc il faut que l'État intervienne le moins possible, les banques centrales interviennent le moins possible pour que les agents soient capables de prendre les bonnes décisions et que ce ne soit pas brouillé par des mauvais signaux. Donc c'est une vraie opposition forte hein, de la théorie économique et elle se cristallise vraiment de manière très forte sur les questions de politique monétaire. Alors après ça rejaillit sur beaucoup d'aspects de la macroéconomie mais sur les questions de politique monétaire. Et c'est relativement important et c'est pas neutre. C'est que les anticipations rationnelles, les néoclassiques ont gagné un petit peu la bataille idéologique à de nombreux domaines dans les années 80. Sur l'indépendance des banques centrales, sur la libéralisation des marchés financiers, sur le rôle de la politique budgétaire, sur le rôle des marchés financiers de manière assez large. Et on voit aujourd'hui que finalement, toute la rationalité qu'ils prêtaient aux agents, que ce soit les banques, que ce soit les ménages, à traiter l'information correctement, à réaliser qu'il existe des bulles et qu'il ne faut pas y aller si c'est une bulle, d'accord ? Tous ces comportements-là, finalement, ils ont, d'une certaine façon, exagéré la capacité de traitement d'information qu'ont les individus. Et on peut penser que, d'une certaine façon, ça a conduit très clairement, hein, la libéralisation des marchés financiers, une politique monétaire accommodante, etc., beaucoup trop accommodante, ça a conduit à la crise, d'une certaine façon, des subprimes, et ça a conduit aussi à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui un petit peu en Europe. Donc, on voit que la foi dans la capacité des agents à comprendre les mécanismes de l'économie de marché est quelque chose qui a eu sans doute beaucoup trop de poids dans les dernières années. Et aujourd'hui, hein, on revient sur des questionnements importants que sont pourquoi est-ce qu'il y a des imperfections, pourquoi est-ce que la monnaie n'est pas neutre, pourquoi est-ce que quand il y a une crise financière, bah, ça va faire que mon beau-frère va perdre son emploi, etc. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont très importante et qui avait été complètement évacuée d'une certaine façon pendant des années. Donc voilà un petit peu ce sur quoi ça débouche. Ça a des implications très larges et vous verrez au cours du cycle de conférences avec tout ce qui est la formation de bulles sur les actifs. Les bulles, c'est quand un actif est surévalué par rapport à sa vraie valeur. Tout ce qui est les comportements d'imitation, les comportements moutonniers, tout ce qui est comment faire de la politique monétaire aujourd'hui, etc. Toutes ces questions-là vont sans arrêt se référer à la fois donc, aux éléments un peu factuels que j'ai présentés au début, et puis aux théories, aux grandes théories un peu classiques et néo-keynésiennes, ou keynésiennes, que je vous ai exposées ici.
Vous avez des questions ? Oui ?
Oui ? Notamment, tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas si c'est Keynes ou les néo-classiques qui disaient, mais de toute façon, l'être humain est beaucoup plus intelligent, il va avoir un temps, il va acquérir des connaissances, il saura en gros qu'il n'y a plus que faire. Et notamment, on nous dit que pour acquérir des connaissances en économie ou ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi beaucoup d'acquisition d'informations. Donc, le temps que je mettrai pour acquérir de l'information, ce sera du temps en moins, on va dire, accordé à ma famille, du temps en moins en disant mon patron pour prendre un congé sabbatique pendant 6 mois après ça. Et ce à quoi, en fait, vous faisiez référence tout à l'heure, notamment dans le subprime, où on met des profs aux gens, leur dit c'est génial, alors qu'en fait, on se pose la question si je peux économiser ma formation, même si je prends pas mon autodidacte, je me suis dit ces dernières années, ça fait référence, en fait, à ce que vous appeliez, de manière indirecte, la symétrie d'information qui a valu à Stiglitz, Akerlof et Michael Smith, prix Nobel d'économie en 2001, et leur sujet principal, c'était la symétrie d'information. Donc, je suis avec mon banquier, je vends un produit financier, c'est génial, ça rapporte 15% par an, c'est pas risqué, votre capital est garanti, donc les gens comprennent. Mais celui qui vous vend des produits, parfois vous vend des produits qu'il ne connaît pas, voilà, si vous les connaissez, le type l'a déjà fait. Monsieur Parigofi, il a 15 ans d'expérience professionnelle, il sait que c'est un citoyen, citoyenne lambda. Il veut le fournisseur, donc on sait.
J'ai compris le sens de la question. Non, mais c'est pas ça, c'est que si d'autres personnes veulent poser des questions, il faut essayer de faire assez court. Alors, je suis d'accord avec vous sur les asymétries d'information. C'est quelque chose qui existe, qui a un impact très important, surtout sur les marchés financiers, qui a été complètement sous-estimé, notamment par l'école néoclassique. Quand je dis que les néoclassiques, ou ceux qui pensent que les anticipations sont rationnelles, les anticipations rationnelles ne sont pas les anticipations parfaites. Hein. Les gens qui défendent ces idées disent on peut se tromper, mais en moyenne, et pas individuellement, mais collectivement, on ne se trompe pas. D'accord ? C'est très différent. C'est-à-dire que pour les théoriciens des anticipations rationnelles, c'est pas seulement une rationalité individuelle, c'est aussi une rationalité collective et une capacité à apprendre le modèle de l'économie tout simplement par les décisions qu'ils font tous les jours, sans faire des études d'économie, sans connaître tous les modèles qui existent en économie, mais simplement en traitant les signaux d'accord, qu'ils reçoivent. Ils vont sur le marché du travail, il y a certains salaires, ils s'adaptent, ils réagissent. D'accord, ils vont acheter leur baguette de pain, ils voient que le prix a augmenté, ils essaient de comprendre si c'est juste le pain qui a augmenté ou tout qui a augmenté. D'accord, ce genre de décisions toutes simples qu'ils prennent et qu'ils font, qu'ils traitent, d'un point de genre d'information qu'ils traitent, presque sans s'en rendre compte. D'accord ? Chacun le fait individuellement et collectivement, on arrive à un certain niveau d'apprentissage tel que, pour les théoriciens des anticipations rationnelles, en moyenne, on ne se trompe pas, même s'il est toujours possible de se tromper. Alors que c'est très différent. Les Keynésiens disent, systématiquement, on va se tromper. D'accord ? On va se tromper parce qu'on n'est pas capable de faire la différence entre un revenu réel et un revenu nominal. Au moins dans un premier temps, je ne suis pas capable de dire, parce que je mets du temps à comprendre l'évolution des prix. D'accord ? Donc c'est juste un... Voilà, mais ça n'a pas à voir avec la formation individuelle de chaque agent de l'économie ou sa connaissance de l'économie. Pour les théoriciens des anticipations rationnelles, c'est une rationalité qui est comme ça, qui fait que vous êtes capable de traiter les signaux. Il vous confère un grand pouvoir d'interprétation que vous ne soupçonnez même pas. D'accord ? Même si vous ne connaissez rien à l'économie. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Anticipation rationnelle ou anticipation intuitive?
Alors, le terme, c'est anticipation rationnelle. Rationnelle parce que, en moyenne, vous ne vous trompez pas. Donc, en moyenne, vous connaissez le bon niveau, le bon modèle de l'économie. Après, ponctuellement, il peut vous arriver de vous tromper, mais globalement, en moyenne, vous ne vous trompez pas.
Quoi c'est la Banque de France, car la Banque centrale est européenne?
Bonne question. Mais la réponse ne va pas vous faire plaisir. Elle sert à deux choses. Bon. Il y a des économistes qui vous diraient qu'elle sert à rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, elle n'a plus le contrôle de la politique monétaire. Et elle n'a plus de rôle direct dans la politique monétaire. Mais par contre, elle fait partie du système européen de banque centrale. D'accord ? Le système européen de banque centrale, c'est la BCE et toutes les banques centrales nationales. Et chacune des banques centrales nationales a pour mission de faire remonter auprès de la BCE de l'information relative à chacune des nations qui composent la zone euro. Donc de faire des études économiques pour faire remonter les chiffres et l'information, de la traiter, la pré-traiter. Et deuxièmement, participer à ce qu'on appelle les politiques de surveillance ou les politiques prudentielles qui sont mises en place par la BCE. La BCE, en fait, n'est pas suffisamment grosse en elle-même et elle a un petit peu délégué cette partie-là aux banques nationales. Pour surveiller la stabilité des banques, pour vérifier qu'il n'y a pas de gros problèmes dans leur bilan, qu'elles ne sont pas en sus ou en sous-liquidité, etc. etc. Donc, ces deux rôles-là, hein, qui sont devenus un petit peu, si vous voulez, comme des fonctions support de la politique monétaire, et qui ne sont plus les fonctions centrales de la politique monétaire.
Les subprimes aux États-Unis et l'immobilier en Espagne, n'est-ce pas dû aux intérêts qui étaient des intérêts à taux variable plutôt qu'à taux fixe? Comme en France, on a plutôt quand même tendance à avoir des taux fixes pour l'achat en immobilier.
Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Les taux d'intérêt, ça joue toujours un rôle très important dans la dynamique des variables financières. Que les taux d'intérêt variables peuvent avoir joué un rôle. Je dirais que ce qui a le plus joué, c'est le fait, la mauvaise interprétation des prix qui a été faite par les agents. D'accord ? La valeur fondamentale d'un actif, hein, on a l'habitude de dire, c'est la somme actualisée des revenus qu'elle va générer, ou qu'il va générer. D'accord ? Donc, si je vois une obligation, je sais calculer à peu près son prix par rapport au taux d'intérêt que ça va me rapporter tout au long de... Voilà. Pour un immeuble, pour un appartement, d'accord, c'est la somme actualisée des loyers que vous êtes en droit de percevoir. Les agents ont tendance, alors qu'il est relativement prévisible qu'un actif qui se déconnecte de sa valeur fondamentale finira par s'écraser, revenir à sa valeur fondamentale, les agents ont tendance à aller dans le sens du marché plus que dans le sens de la vraie valeur, celle sur laquelle ils devraient prendre leur décision. D'accord ? C'est un problème de rationalité et de capacité à traiter l'information. Selon moi, vous observez un prix, vous savez quelque part que ce n'est pas le bon prix, mais vous prenez quand même la décision, par exemple, d'acheter parce que vous pensez que ça va augmenter, d'accord, et que ça va continuer à alimenter la bulle. Sauf qu'un jour, les agents finissent par massivement se rendre compte qu'on est trop loin du prix d'équilibre, on va finir par retomber. C'est le fonctionnement un peu général d'une bulle. Alors, est-ce que les taux d'intérêt variables participent plus à la formation des bulles? C'est pas forcément sûr. Certaines personnes disent qu'il commence à y avoir un peu une bulle sur le marché de l'immobilier, que la bulle a déjà commencé entre 2000 et 2007, et qu'aujourd'hui, on pensait qu'il y avait une correction avec la crise de 2008, mais aujourd'hui, ça repart un peu à la hausse. Certaines personnes disent « attention, on repart dans une bulle ». C'est des questions très compliquées. Vous allez approfondir à M. Orléans, qui viendra. On pourrait lui poser la question peut-être plus directement. Je suis assez convaincu que ça ne vient pas forcément de la variabilité du taux d'intérêt, mais beaucoup plus du niveau du taux d'intérêt.
dernière question, si ça ne vous embête pas. Non, allez-y.
On parle souvent de sous-évaluation ou surévaluation d'une donnée. Est-ce qu'il y a des définitions assez simples pour un commun
On
parle du gain qui est sous-évalué,
oui.
L'euro qui est surévalué.
D'accord. Donc, ça, c'est quand on parle des monnaies au niveau international.
Oui, oui.
Alors,
sans essayer de. Je vais quand même être obligé de donner quelques indications sur ce qui se passe en économie ouverte. En économie ouverte, vous vendez des biens à l'étranger, dans votre monnaie, généralement, et vous achetez à l'étranger des biens, vous les importez, dans la monnaie étrangère. D'accord ? Et généralement, soit vous avez de l'épargne excédentaire et vous êtes capable, si vous voulez, de financer vos achats sans vous endetter auprès de l'étranger, soit vous êtes obligé de vous endetter parce que d'accord, vous allez, d'une certaine façon, emprunter à l'étranger pour acheter ce qui est produit à l'étranger. Donc ces deux aspects, l'aspect qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je vends, et l'aspect comment je le finance, d'accord, interagissent dans un document, enfin dans ce qu'on appelle la balance du compte courant, d'accord. Et en fonction de ça, d'accord, vous avez des demandes et des offres de monnaie qui correspondent. Quand vous achetez beaucoup à l'étranger, vous allez demander beaucoup de monnaie étrangère, et vous allez vendre votre monnaie pour pouvoir acquérir cette monnaie étrangère. Et inversement, quand les étrangers veulent acheter absolument vos biens, votre monnaie est fortement demandée. D'accord ? Qu'est-ce que ça fait, ça ? Si on est en régime de change flexible, ça fait qu'en moyenne, les pays dont la monnaie est fortement demandée a tendance à s'apprécier par rapport aux autres. Et quels sont ces pays ? Ce sont les pays, essentiellement, qui sont exportateurs nets, comme l'Allemagne, comme la Chine, comme le Japon. D'accord ? Ce sont les pays dont tout le monde veut la monnaie, puisqu'on va acheter les biens qui sont produits dans ce pays. Sauf que quand on est... Donc ça, c'est quand on est en change flexible. Quand on est en change flexible, on ne peut pas parler d'une monnaie qui est sous-évaluée ou surévaluée. Elle est évaluée à son bon niveau, d'une certaine façon. Par contre, quand on est en régime de change fixe ou semi-fixe, hein, comme le fait la Chine, elle dit « je change un petit peu mon taux de change, mais de manière limitée, graduellement », en fait, on peut parler d'une monnaie sous- ou surévaluée dans la mesure où il existe des pressions à l'appréciation. Donc s'il existe des pressions à l'appréciation, comme dans le cas de la monnaie chinoise, on parle d'une sous-évaluation, ça veut dire qu'elle devrait être évaluée plus haut. D'accord ? Et ce que fait en fait la banque centrale chinoise en faisant ça, sa monnaie est très demandée. Comment elle fait pour la sous-évaluer ? Sa monnaie est très demandée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle répond à la demande, elle offre beaucoup de monnaie sur le marché interbancaire, d'accord, et elle permet aux agents qui la demandent de l'acheter. Donc, d'une certaine façon, elle maintient artificiellement bas le prix de sa monnaie. Au contraire, une monnaie qui serait surévaluée, ce serait une monnaie qui serait très peu demandée, d'accord, en gros, elle serait tellement peu demandée qu'il faudrait, pour maintenir la parité, que la banque centrale la rachète indéfiniment. D'accord ? Je rachète ma monnaie, pour essayer de maintenir le cours à un certain niveau, à un niveau plus bas que ce qu'il devrait être. D'accord ? Et ça, c'est une monnaie qui est surévaluée. Alors, une monnaie qui est sous-évaluée, pour une banque centrale, ce n'est pas un problème, puisqu'elle peut émettre sa monnaie autant qu'elle veut. Donc, tant que les gens en demandent, elle va répondre à cette demande. Par contre, une monnaie qui va être surévaluée, là, ça va poser un problème. Pourquoi ? Puisque pour racheter sa monnaie, d'accord ? Il faut vendre d'autres monnaies. Et pour vendre d'autres monnaies, il faut en avoir dans ses réserves. D'accord ? Et quand j'ai plus de réserves, j'ai plus de réserves. Je ne peux pas les inventer, parce que ce n'est pas moi qui les émets. Donc, il y a un certain moment où une monnaie surévaluée finira par connaître une crise de change. D'accord ? La banque centrale ne pourra plus défendre la parité et va être obligée de dévaluer la monnaie. Et de la dévaluer jusqu'à un niveau qui correspond en fait à sa bonne évaluation. D'accord ? Alors qu'une monnaie sous-évaluée peut rester sous-évaluée très longtemps. D'accord ? Il suffit pour ça que, comme le fait la banque de Chine, la banque centrale chinoise. Il suffit pour ça d'émettre sa monnaie en grande quantité et d'accepter de faire des réserves de dollars absolument monstrueuses. Pour information, les réserves de dollars détenues par la banque centrale chinoise s'élèvent à maintenant plus de 2 500 milliards de dollars. Écoutez, merci beaucoup.